Chapitre 6. En rentrant le surlendemain d'une promenade matinale, Gilbert rencontra près du château le facteur qui, sur sa demande, lui remit le courrier dans lequel se trouvait une lettre à son adresse. Bartolo arriva, comme déjà le jeune homme tenait tout le paquet entre ses doigts. Il demanda avec son sourire dangereux « Laissez-moi vous débarrasser de cela, monsieur. Je vais porter à monsieur le baron ses lettres et ses journaux. » « Je les lui porterai moi-même. Tenez, ceci est pour vous, ceci encore, et ce journal, c'est tout. » Et Gilbert, le tri ainsi fait, s'avança vers la porte. Mais Bartolo, dont le regard avait eu un éclair de colère, étendit la main. « C'est moi qui dépouille le courrier de monsieur le baron et qui lui en fait la lecture, monsieur. Ne vous en inquiétez pas, je m'en chargerai ce matin. » Là-dessus, Gilbert, avec ce calme dédaigneux dont il avait résolu de s'envelopper à l'égard des intrus, s'éloigna et entra dans le château. Il alla trouver M. de Cernailles et lui remit son courrier. « Si vous avez besoin de mes services comme lecteur, usez de moi, cher grand-père. Je serai trop heureux de vous être utile. »« J'accepte volontiers, mon enfant. Ordinairement, c'est Bartolo qui me fait cette lecture. Mais j'aime mieux encore que ce soit toi. » « As-tu une lettre de ton père ?»« Oui, la voilà, grand-père. »« Eh bien, lis-la d'abord. Moi, je ne suis pas pressé, je n'attends plus rien d'intéressant, hélas. » Gilbert, en écrivant à son père dès le lendemain de sa première nuit à Cobreterre, lui avait transmis l'invitation de M. de Cernailles. À cela, M. de Clercy répondait « Remercie beaucoup pour moi ton grand-père, mon cher enfant, et dis-lui que je serai très heureux de me rendre à son invitation, mais plus tard, dans les derniers jours de ton séjour chez lui. En effet, je juge préférable que tu restes seul, pour le moment, afin de ne pas risquer, avant que tu te sois solidement implanté dans son cœur, d'éveiller fâcheusement sa jalousie. Tu lui diras que je ne puis obtenir un congé en ce moment. » Mais il reste bien entendu que si tu as besoin de moi pour mener à bien ton entreprise, un télégramme me fera aussitôt accourir. Je ne puis trop te recommander d'être prudent, extrêmement prudent, à l'égard de ces Italiens. Brûle mes lettres aussitôt reçues. Si je pouvais te les adresser ailleurs, cela n'en vaudrait que mieux. C'était aussi l'avis de Gilbert. Il était persuadé que, tout à l'heure, Bartolo guettait le facteur pour s'emparer de toute la correspondance, y compris la sienne. Les lettres du baron, depuis des années, ne devaient être remises à leur destinataire qu'après avoir passé sous les yeux de l'intendant qui supprimait celles jugées dangereuses pour son intérêt. De toute évidence, il aurait été charmé de savoir ce que M. de Clercy écrivait à son fils. Celui-ci, par un heureux hasard, avait déjoué la combinaison et, en outre, il se défiait maintenant plus que jamais. Dès ce jour-là, après le déjeuner, Gilbert, en répondant à son père, lui demanda d'adresser ses lettres à la licorne d'or. Pour ne pas éveiller la surprise du baron, M. de Clercy devait en écrire quelques autres, ne contenant rien que d'insignifiant, et qu'il adresserait à Cobreterre. Puis le jeune homme descendit à Claveronne et alla prévenir Clarisse Robienne. Celle-ci l'approuva fort. « Voilà une précaution bien utile, monsieur. Il doit être habile à toutes ces besognes-là, le Clédigny. Avez-vous remarqué ses doigts, ses déliés, ses souples? Ouvrir une lettre, la lire et puis la remettre en état, c'est probablement un jeu pour lui. On vous gardera les vôtres ici, allez, monsieur, et on ne les remettra qu'à vous, soyez sans crainte. » La vieille Marielle exultait du prompt succès remporté par le jeune homme sur les étrangers. « Vous voyez, monsieur Gilbert, que votre ressemblance avec votre grand-père vous a bien servi. Maintenant, le plus difficile est fait. » Ce n'était pas du tout l'avis de Gilbert. Certes, il avait pris ses adversaires par surprise en se présentant inopinément aux yeux de monsieur de Cernailles. Mais il est deviné trop habile pour ne pas combiner maintenant contre lui de sournoises manœuvres. Après avoir pendant des années travaillé à isoler le vieillard, Bartolo n'abandonnerait pas ainsi l'espoir de voir une partie de cette grosse succession lui revenir. Le jeune homme, après avoir pris congé de Marielle et de sa fille, s'en alla flâner dans le village qu'il ne connaissait guère encore. On le saluait en le suivant d'un regard sympathique. Marielle et Clarisse, n'ayant plus maintenant à cacher son identité, avait appris aux habitants de Claveronne que Cobreterre possédait maintenant un jeune maître, ce qui avait plu à tous, assurait-elle, personne ne voyant les Italiens d'un œil bienveillant. Devant le presbytère, Gilbert rencontra le curé et le salua en se présentant à lui. Le prêtre l'invita à entrer, ce qu'il accepta. Dans la petite salle fraîche qui ouvrait sur un jardin, d'où s'exhalait la senteur sucrée des prunes mûres chauffées par le soleil, ils causèrent longuement. L'abbéresse, jeune prêtre calme et chétif, était depuis 3 ans curé de Claveronne. Il avait succédé à un prêtre nonagénaire, contemporain de M. de Cernailles, et qui, depuis la mort du petit Thierry, n'avait jamais été reçu par le châtelain, avec lequel, auparavant, il entretenait des relations amicales. L'aïeul, ainsi frappé dans son affection presque idolâtre pour ce descendant de sa race, gardait au ciel une farouche rancune qu'il manifestait par cette rupture des rapports entre le ministre de Dieu et lui, et par son abstention de toutes les cérémonies religieuses, autrefois suivies, sinon avec piété, du moins avec une exactitude respectueuse. « La situation n'a pas changé depuis que je suis ici », ajouta le jeune curé en achevant de donner ses explications à Gilbert. « Et Monsieur de Cernailles a 92 ans. D'un jour à l'autre, la mort peut le frapper. Jusqu'ici, il était sans famille, entouré d'étrangers. » Il s'interrompit un instant avant d'ajouter « Des étrangers bien peu sympathiques, le père et le fils surtout. » et qui ont dû tout faire pour que mon pauvre grand-père conserve ses sentiments peu chrétiens, car leur plan ne se serait guère arrangé d'une intervention, très probable, du curé en faveur de la petite fille injustement exilée. Intervention certaine, monsieur. Le vieil abbé Audreau, que j'ai assisté dans les derniers mois de sa vie, m'a dit qu'un de ses grands chagrins avait toujours été de n'avoir rien pu tenter pour amener M. de Cernailles à une juste notion de son devoir à l'égard de cet enfant. Eh bien, ce Clédigny s'en doutait et il a agi en conséquence. Mais j'espère que, maintenant, mon grand-père changera de sentiment peu à peu et que je le ramènerai à l'église, monsieur le curé. Employez-y tout votre cœur, tout votre zèle, monsieur, et que Dieu vous aide. » Sur ce souhait, l'abbéresse et Gilbert se séparèrent, après s'être promis de se revoir bientôt. Le jeune homme remonta vers Cobreterre. Il se sentait aujourd'hui alerte et presque joyeux. Une sympathie nouvelle venait de lui être offerte, et il devinait autour de lui celle de tout le pays, hostile aux étrangers. De nature prudente et réfléchie, il ne se dissimulait pas les difficultés qui lui restaient à vaincre, mais elles lui semblaient déjà moins grandes à l'idée que toute l'opinion, cette grande force morale, le soutenait par avance dans sa lutte contre les intrus. Il montait sans hâte entre les pins qui se pressaient au bord du chemin étroit. Le jour perdait lentement sa lumière. Dans les sous-bois où se glissait l'obscurité, la fraîcheur du soir commençait de s'insinuer. Des frôlements de feuilles, de légers bruits produits par le passage d'un insecte ou le susurrement d'une mouche, le choc du talon de Gilbert sur les cailloux du chemin, troublaient à peine l'apaisant silence du jour à son déclin. Gilbert n'entendait pas autre chose. Et cependant, voici qu'il avait l'impression d'être suivi, épié. Quelqu'un, il le sentait, suivait le même trajet que lui sous le couvert du bois. À un moment, le chemin passait au bas d'un haut talus couvert de bruyère. Mû par une impulsion qu'il ne chercha pas à maîtriser, il gravit d'un bond. Et il vit, se glissant entre les arbres, essayant de se dissimuler, Rosa Clédigny, la filleule de son grand-père. Elle tenta de fuir, mais il la rattrapa et lui saisit le bras. « Pourquoi vous sauviez-vous? Quelle vilaine action commettiez-vous donc là ?» Très rouge, mais les yeux hardis, elle riposta. « Je ne faisais rien de mal, monsieur, mais vous m'avez effrayé. Pas de mensonge, je sais très bien que vous m'espionniez. Mais je ne vous conseille pas de recommencer, car, en ce pas, je vous mène devant monsieur de Cernailles et je lui raconte tout. Dites-le bien à ceux qui vous font faire ce joli métier. » Il la lâcha et reprit sa route. L'indignation, maintenant, avait remplacé la quiétude de tout à l'heure. Ces êtres, qui ne craignaient pas d'employer leurs filles et petites filles à ce rôle d'espionne, devaient réellement être capables de tout. Il aurait à se garder d'eux à toute heure, en toute occasion. Fort heureusement, un meurtre entraînerait pour eux de trop gros risques dans les circonstances présentes. Intelligents comme ils l'étaient, ils savaient certainement d'avance qu'un attentat contre le petit-fils de leur maître serait la pire maladresse qu'ils pussent commettre. Mais ils chercheraient d'autres moyens. Les manœuvres souterraines leur étaient certainement familières, le mensonge, la calomnie ne les gênaient pas. Dans l'ombre, ils allaient s'acharner après lui. L'affection soudaine de M. de Cernaille pour son petit-fils serait-elle assez forte pour résister à l'influence prise sur lui depuis tant d'années par l'intendant ? Quand Gilbert entra dans le salon assombri où pénétrait la fraîcheur du crépuscule, l'aïeul se souleva un peu sur son fauteuil en tendant ses mains ridées. « Ah, cher enfant, j'ai trouvé cet après-midi longue sans toi !» Gilbert s'approcha, s'assit près de lui sur un siège bas. Ses doigts prirent les mains tremblantes et les étreignirent doucement. « Vraiment, je vous ai manqué, grand-père !»« Mais oui, mon enfant, écoute, je me demande comment jusqu'ici j'ai pu vivre sans toi !» Son regard enveloppait avidement le jeune visage ému, aux yeux profonds et pleins de charme. D'une voix frémissante, où passait comme un souffle des souffrances passées, le vieillard acheva. Mais aussi, ce n'était pas une vie.